Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Grosse nouvelle qui vient de sortir. On apprend que Céline Dion va remonter sur scène à Las Vegas en novembre. Mais c'est pas de ça dont on va parler avec Jean-François. Lisez la grosse nouvelle de la semaine. Ça va être demain. Le ministre Simon-Jolin Barrette qui va déposer le plan du gouvernement Legault pour renforcer la loi 101. On a déjà quand même des bribes d'informations. Mais moi, j'étais intéressée à savoir ce que Jean-François Lisée, en tant qu'ex-chef du Parti québécois, en pensait. En fait, quelles sont ses attentes? Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Aurais-tu préféré qu'on parle de Céline Dion qui remonte sur scène à Vegas?
Bon, ben d'abord, je dois dire que j'étais présent à son dernier spectacle lorsqu'elle a fait sa longue série, là, au Caesars Palace. J'avais été envoyé par une radio pour aller faire un reportage sur son dernier spectacle et j'avais appris qu'elle avait trouvé ça très, très difficile depuis le début parce que la scène était un petit peu penchée vers l'avant et donc ça lui avait donné des gros problèmes de tendons pendant tout ce temps-là. Elle avait souffert le martyr et elle était un peu contente que ça soit terminé. Alors moi, je pensais pas ça. Moi, je pensais que c'était un genre de lune de miel extraordinaire, de rêve de princesse. Et puis là, c'est fini. Le plancher penche par en avant. Là, ils ont remis un plancher normal pour les pieds de Céline pour la suite.
Bon.
Ça, c'est une information importante. Et puis, c'est très bon pour l'économie américaine. La reprise américaine est certaine.
Ben écoute, Céline, c'est fou quand même.
Dans l'économie de Las Vegas, ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle et on parlera du français un petit peu plus tard. Parlons de l'anglais. C'est fou comment aux États-Unis tout ressemble vraiment retourner à la normale. On apprenait la semaine dernière que Broadway, les spectacles allaient pouvoir reprendre le 15 septembre. On regarde un peu les États-Unis avec des petits coulets de bave sur le bord de nos lèvres quand même en se disant tabarouette, ça va vite chez eux là.
Oui, ben, c'est parce qu'ils ont eu... ils fabriquent eux-mêmes une partie de leur vaccin. Ça, c'est la clé, là. C'est quand tu les fabriques chez toi, c'est la même chose pour la Grande-Bretagne. AstraZeneca, Oxford, c'est chez
Oxford,
eux.
C'est Oxford, oui, tout à fait.
Donc, quand tu les fabriques chez toi, tu te les donnes d'abord à toi. Et il y a eu une accélération très forte de la production, une loi nationale qui est utilisé pour mobiliser les manufacturiers en temps de guerre a été utilisé pour le vaccin. Vraiment, ça a été une énorme réussite logistique de faire en sorte que la moitié des Américains assez rapidement aient leur première dose et eux, ils vont assez rapidement pour la seconde dose aussi. Évidemment, il y a juste à peu près 60% des Américains qui sont en ce moment vaccinés et on voit une hésitation très forte pour essayer d'arriver au seuil de 75-80%. On ne sait pas s'ils vont y arriver. Nous, on va probablement y arriver, notamment au Québec, parce que de semaine en semaine, la proportion de Québécois qui veulent se faire vacciner augmente. Et maintenant, on est rendu, je pense, à 84% des Québécois qui souhaitent se faire vacciner ou qui l'ont déjà été. Les Américains sont très loin de ça. Donc, il va y avoir un problème qui va se poser, là. C'est pour ça qu'ils offrent de la bière, qu'ils offrent...
C'est drôle, ça. A beer for a shot.
Oui, a shot for a shot.
Et puis a shot for a shot, c'est ça, oui.
Oui, oui. Alors, on va voir. Nous, pour l'instant, on n'a pas besoin de faire ça, mais on va peut-être finir par y arriver. Mais effectivement, c'est le retour de Céline, c'est un signe du retour à la normalité. C'est quand même extraordinaire que même une publicité très populaire en ce moment d'une gomme à mâcher extraordinaire.
Ben oui, elle est géniale. C'est une chanson de Céline.
Céline.
Oui, c'est all coming back to me now.
Exact. Et puis donc,
raison.
Elle fait partie de la culture, elle fait partie de l'histoire de la pandémie ou de la sortie de la pandémie. C'est quand on a l'empreinte québécoise grâce à Céline en particulier.
C'est fou.
C'est quand même quelque chose, c'est...
T'as tout à fait raison. Non, mais cette publicité-là est absolument hallucinante. Je suis partie à pleurer, moi, en écoutant cette publicité-là, parce que les gens, bon, à rire d'abord, puis à pleurer après, des gens qui, donc, se dépêchent de sortir de chez eux pour aller frencher des inconnus, mais d'abord, en prenant une petite gomme à mâcher. Et non, mais avec la toune de Céline, c'est vraiment génial. Donc, t'as tout à fait raison. C'est tout à fait le symbole d'un certain retour à la normale. Donc, revenons sur le plancher des vaches ici au Québec. Demain, Simon Jolin Barrette va nous dire ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des dents dans sa loi, sur la loi 101 ou pas, dans son projet sur la loi 101? Écoute, il a déjà quand même annoncé la semaine dernière que, à partir de maintenant, le gouvernement va communiquer uniquement en français avec les entreprises, mais ça fait 20 ans que le gouvernement est censé faire ça, fait que, en fait, on fait juste rattraper notre retard.
Oui, ben, c'est comme un menu, là. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer le français au Québec. Il y a des choses qui sont secondaires, il y a des choses qui sont principales. Alors, la grande question, ouais, c'est, est-ce qu'il va faire le secondaire? Parce qu'on peut faire, 10 mesures intéressantes à impact mineur qui c'est ne bon, changeront ouais. pas la tendance, ou on peut faire 3 mesures majeures qui vont infléchir la tendance. Et moi, mes attentes malheureuses, c'est-à-dire mon inquiétude, c'est qu'ils vont faire beaucoup de petites mesures sympathiques, mais à impact mineur, et pas les mesures essentielles à impact majeur.
Et je te vois venir, l'immigration, on en a parlé régulièrement. Quelles seraient les deux autres?
Ça, c'est la première. La deuxième, c'est sur l'éducation supérieure, s'assurer que dans les collèges anglophones, dans les universités anglophones, les finissants aient une réelle connaissance du français, parce que puisqu'ils ne l'ont pas, ils participent à l'anglicisation des milieux de travail à Montréal. C'est extrêmement important. La question des étudiants étrangers aussi, qui sont des anglophones, qui apprennent pas le français. Alors, toute cette question des études supérieures anglophones. Alors, ça ne suffira pas, qui semble vouloir nous annoncer, j'espère qu'ils vont nous surprendre, mais ce qu'ils semblent vouloir nous annoncer, c'est un contingentement de l'éducation anglophone. Ça ne suffit pas, faut pas les contingenter. On peut bien les contingenter, c'est mieux que rien, mais il faut qu'ils deviennent d'excellents francophones en langue seconde. Et ça, je suis pas sûr qu'ils vont faire ça.
L'immigration. Et ta troisième mesure?
La troisième, c'est dans la langue de travail. Est-ce que dans la langue de travail, ils vont faire en sorte que, non seulement dans les entreprises de 10 ou 25 employés et plus, la loi 101 s'applique, mais qu'il y ait un réel resserrement, parce que la loi 101 est mal appliquée dans les autres aussi. Il y a eu du relâchement important. Il y a eu une époque, après Lorrain, où il y avait des comités de francisation qui fonctionnaient, qui étaient très vigilants. Et depuis, ça a été laissé là, en jachère et en fait, les entreprises font un peu ce qu'elles veulent. Donc, il va y avoir un réel resserrement de ce côté-là. C'est les 3. Ensuite, une fois qu'on a fait ces 3-là, on peut en ajouter, hein, comme effectivement, parler en français seulement aux entreprises. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va avoir un impact sur le traducteur de l'entreprise. Hein? Il y a 3 personnes qui vont traduire les formulaires. C'est bien. On peut avoir là le débat sur les villes anglophones.
Oui, bon, les villes officiellement bilingues, écoute, je sais pas si t'as vu passer ça, le maire de Côte-Saint-Luc qui dit, bon, ben moi, la majorité de ma population est bilingue, donc c'est correct si mes conseils municipaux se passent en anglais. C'est quand même assez insultant de se faire répondre ça en 2021. Bon, de toute façon, c'est pas grave, vous parlez l'anglais, fait que c'est pas grave, moi, m'aller faire majoritairement en anglais. Mes conseils? Tabarnouche.
Oui. Sauf que le statut bilingue de la ville n'empêche pas des gens de s'exprimer en anglais. C'est-à-dire, si on enlève le statut bilingue de la ville, ça n'empêche pas les gens de s'exprimer en anglais au conseil municipal. Même chose, l'Assemblée nationale, n'importe qui peut se lever et parler anglais à l'Assemblée nationale, ce n'est pas interdit. Alors, cette mesure-là, alors c'est vrai que Camille Lorrain avait dit en 77, si vous avez plus de 50% de la population de votre ville qui a la langue maternelle anglaise, vous avez un statut bilingue. Et depuis, il y a plusieurs de ces villes où il y a eu un mouvement de population important. Il y en a une, je pense, qui reste 4% d'anglophones. Mais alors, oui. Il n'y a jamais une seule ville au Québec qui a dit « Ah, savez-vous, retirez-nous notre statut bilingue. » C'est pas arrivé. Il n'y avait pas de mécanisme dans la loi. Cependant, si on retire le statut bilingue, c'est une bataille identitaire forte qui va susciter une réaction forte, mais qui a presque pas d'impact dans le réel. Hein, presque pas d'impact dans le réel parce que les villes non bilingues, comme la ville de Montréal, offrent tous ces services sur demande en anglais.
Traduit mais non seulement
en oui. anglais. Alors, quelle différence avec le statut bilingue? Il est minime. Alors,
Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté symbolique? C'est-à-dire que c'est le symbole, c'est la force du symbole. Par contre, à l'inverse, si en effet le gouvernement dit bon, on va se baser sur ce qui est la loi, donc c'est 50%, on va regarder les chiffres. Si vous n'avez pas une masse critique qui vous permet de l'avoir ce statut-là, on va vous l'enlever. Regarde bien ça, ça va se rendre jusqu'à l'ONU, ils vont aller pleurnicher en disant c'est effrayant, puis dans les journaux anglais, ça va être le gouvernement intolérant de François Legault qui s'attaque de façon indue à la minorité anglophone. Donc, ce qui aurait pu être valeur de symbole va se retourner contre le gouvernement, selon moi.
Lorsqu'on fait une réforme, il faut savoir, est-ce qu'on veut avoir l'air d'avoir raison ou est-ce qu'on veut réussir la réforme? Et dans le cas, moi j'ai eu ce débat-là plusieurs fois, dans le cas des villes bilingues, dans un monde idéal, effectivement, il faudrait s'attaquer à ça. Mais si tu veux faire progresser le français, c'est la dernière mesure de ta liste et c'est celle qui politiquement coûte le plus cher et rapporte linguistiquement le moins.
Coûte le plus cher et rapporte le moins linguistiquement. Je vais garder ta formule pour résumer notre conversation. Pour s'assurer que alors, ça corresponde bien. Oui.
J'ai bien l'impression qu'ils vont le faire et que ça va faire un énorme fracas, mais que, donc, on ne parlera pas, enfin, moi je vais en parler, du fait qu'ils ne s'attaquent pas au vrai problème qui est celui de l'immigration. Alors, bon, c'est un choix. Et ça va donner l'impression qu'ils font quelque chose d'important.
Et dans le journal de ce matin, dans la section « Faites la différence », il y a Frédéric Bastien, l'historien qu'on connaît bien, qui s'était présenté d'ailleurs à la chefferie du PQ, mais il n'a pas gagné, évidemment, et qui en fait, dans les grandes lignes, dit exactement ce que toi tu dis depuis le début sur l'immigration, avec des chiffres à l'appui, évidemment, en disant c'est comme, on a l'impression que le gouvernement ouvre deux robinets en même temps. Donc, il aura beau, de la main droite, ouvrir le robinet d'un certain nombre de mesures, si de la main gauche, il ne ferme pas le robinet d'une immigration massivement non francophone, son bain sera jamais chaud, là. Son bain va toujours rester tiède, ou au pire, son bain va être froid.
C'est ça. C'est exactement ça. Mais François Legault n'a jamais voulu parler d'immigration linguistique, sauf lorsqu'il avait dit à la CBC à l'époque, avant qu'il soit au pouvoir, on insiste trop sur la demande du français dans des critères de sélection.
Il
s'est jamais dit. Mais ensuite, il a dit, bon, ben on va les faire venir, c'est pas grave, ils ne parlent pas français, mais 3 ans après leur arrivée, on va leur faire passer un test de français et de valeur. Et s'ils ne le passent pas, ben là, on leur donnera pas leur certificat de sélection. Donc,
mais non, c'était pire. Ça. Puis écoute, t'imagines l'image de gens raccompagnés à l'aéroport sous protection policière, de évincés de chez eux, des enfants retirés de l'école, des gens forcés à quitter la province parce qu'ils n'ont pas réussi à passer un test de valeur ou un test de français. Comment a-t-il pu 2 secondes penser que c'était viable politiquement?
Ben moi, c'est pendant la campagne électorale de 2018, une de mes lignes les plus applaudies dans mes discours, c'était la seule personne qui devrait être expulsée du Québec, c'est la personne qui a inventé cette proposition-là.
Pourquoi les gens disent que t'as pas le sens de l'humour? T'es super drôle, Jean-François.
Je te remercie. Mais donc.
Non, mais c'est une sacrée bonne ligne. C'est toi qui l'avais écrite ou c'est un de tes conseillers politiques?
Ah non, ça m'est venu comme ça sur scène.
Bon, bravo.
Merci. Mais en tout cas, ce qui fait qu'il y avait quand même une promesse à l'élection de 2014, une promesse tordue de faire quelque chose de sérieux sur le français des immigrants. Et cette promesse-là est non tenue. Alors, comment est-ce que, on va voir demain, est-ce qu'il va probablement y avoir encore une augmentation du budget de francisation des immigrants déjà arrivés? Peu importe combien tu mets d'argent là-dessus, ça fait 50 ans que c'est un échec. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à Montréal et que tu te rends compte que le français est optionnel pour oui. vivre ou pour gagner ta vie, pourquoi est-ce que tu t'enquiquinerais à passer des centaines d'heures à apprendre une langue qui est optionnelle? C'est ça oui. le problème. À moins de tous les envoyer en Gaspésie, là, ça va, en Gaspésie, le français n'est pas optionnel, il est indispensable. Mais c'est peut-être une proposition. Tous les immigrants passeront d'abord 2 ans en Gaspésie avant d'aller ailleurs sur le territoire. Ça marcherait.
Mais oui, mais ça se fera pas. Et ça a été mis en lumière quand même. On l'a vu là avec cette campagne de vaccination qui peine à décoller dans certains quartiers. Et une des raisons pour laquelle ça peine à décoller, c'est que on a de la difficulté à rejoindre les gens pour les informer qu'il y a cette campagne de vaccination qui a lieu au Québec, parce qu'il y a des gens qui ne parlent ni le français ni l'anglais.
Oui, je comprends ça, mais je me suis dit quand même, on sait qu'il y a des bulles ethniques ou d'immigration qui se créent, puis il y a des gens qui vivent dans leur pays d'origine parce qu'ils écoutent avec les satellites et Internet, ils écoutent la radio du Pakistan ou la télé de la Russie, etc. Mais dans tous ces pays-là, ils vaccinent aussi, c'est quand même la principale nouvelle partout dans le monde. Ouais, comment tu peux passer à côté du fait que le monde entier est en train de se faire vacciner? Ça, c'est
je sais pas. Je n'ai pas de réponse. Oui, ça, c'est une excellente question. Jean-François, toujours un plaisir de te parler. On va se retrouver vendredi, donc au lendemain cette annonce de Simon Jolin Barrette. Donc, on va pouvoir en reparler et tu vas pouvoir... tiens, je te lance un défi, tu me donneras ton évaluation sur 100. Quelle note tu donnes à l'élève Simon Jolin Barrette? Merci beaucoup, Jean-François.
On va dire qu'on va le noter sur l'échelle Camille Lorrain.
Ah, quelle bonne idée. Une échelle de l'homme blanc qui a même pas le droit à un petit bout de trottoir. Il faut se battre pour qu'il y ait un petit bout de trottoir à Outremont. Mais en tout cas, c'est un autre débat. Merci beaucoup, Jean-François.
Merci, au revoir.